Alain Baraton, avant vos conseils aux auditeurs de France Inter, d'abord cette tradition de la bûche de Noël, est-ce qu'elle a une connotation religieuse d'ailleurs?
Pas plus que le sapin. La tradition de la bûche est très ancienne et elle participe à la célébration du solstice d'hiver. Et la lumière et la chaleur prodiguées par le feu annonçaient le retour du soleil. Cette fête à l'origine païenne est toutefois reprise par les catholiques qui choisissent le jour de la naissance de Jésus pour perpétuer cette tradition. Au Moyen-Âge, il est de bon ton, voire même une obligation pour les paysans d'offrir aux vassals des œufs ou des agneaux pour Pâques, du blé pour l'Assomption, de l'huile ou du vin pour la Toussaint et bien évidemment du bois pour les fêtes de Noël.
Et il n'y a pas que les vassaux qui recevaient du bois.
Et non, car il était aussi de tradition d'en offrir aux pauvres et aux hommes d'église. Le soir de Noël, on y revient, les chrétiens laissaient la porte de leur maison grande ouverte pour accueillir les pauvres qui pouvaient ainsi se réchauffer et partager un bon repas. Mais attention, un rituel très strict devait être observé. Le jour de Noël, toutes les cheminées du village étaient éteintes. On se rendait à l'église pour allumer un feu qui lui-même allait enflammer des torches bénies par le prêtre, des torches qui allaient de maison en maison ranimer les cheminées éteintes. On avait au préalable placé dans la cheminée la fameuse bûche qui devait se consumer pendant 12 jours jusqu'à l'épiphanie.
Et pour la bûche d'ailleurs, le choix du bois, est-ce que ça a une importance?
Oui, la bûche était souvent coupée dans une souche de hêtre, de chêne ou d'un arbre fruitier. Elle était présentée telle qu'elle avec ses défauts et recouverte de mousse ou de lichen. Les chrétiens prêtaient alors aux cendres des propriétés magiques, des propriétés capables de tenir à distance les esprits maléfiques.
Et pour cette coutume qui a disparu, donc disparition a eu lieu, ça s'est fait lentement mais sûrement.
Bah oui, parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui offrir une bûche, une vraie, à des amis comme cadeau de Noël aurait de quoi surprendre, surtout si vos amis n'ont pas de cheminée. Et c'est justement pour cela.
Rassurez-vous,
les pâtissiers ont eu la bonne idée au 19e siècle, du coup, d'inventer les gâteaux roulés de Noël et au siècle suivant, les bûches à la crème ou glacées.
Ah, quel gourmand.
Voilà donc pour cette bûche de Noël de saison. Vos réponses aux questions des auditeurs, Alain Baraton, cette question de Jean-Jacques qui dit avoir de la chance de posséder un aérial avec une quinzaine de chaînes centenaire. L'un d'eux, et c'est le seul dans ce cas, laisse tomber nombre de branchettes feuillues toute l'année. Est-ce que vous avez une explication?
Alors déjà, un aérial, je crois, sous réserve de me tromper, que c'est une percée dans les forêts des Landes. Vous savez, il y a souvent des forêts incroyables dans le sud-ouest, des pins, et au milieu, il y a eu des abattages et poussent dans ces champs, j'allais dire, eh bien, d'autres arbres que les pins et des chênes. C'est ce qu'on appelle effectivement des aériales. Ariel ou Ariel, alors ça j'ai un petit doute à ce sujet.
On va dire un Ariel.
Je sais pas pourquoi vous me regardez, d'abord si vous parlez pas dans le micro, on vous entend pas, arrêtez de tourner la tête.
Soyons prudents, comment voulez-vous que je ne vous regarde pas en cette veille de Noël?
Eh bien, donc, c'est bien le seul jour de l'année.
Tout simplement un dépérissement du végétal, ce que l'on appelle un début de descente de cime. Je fais simple. Les chênes sont des êtres vivants qui peuvent être épuisés par une vie trop compliquée pour eux, trop longue, ou avec des facteurs qui n'influencent pas une bonne croissance. Et quand on parle de descente de cime, c'est tout simplement que la plante n'a plus la force d'envoyer en hauteur, d'envoyer à l'extrémité des tiges la sève, et bien pour l'alimentation des feuilles et la fameuse photosynthèse. Donc la plante se sépare des parties inutiles pour sa vie, voire sa survie, ce qui explique le dépérissement de l'extrémité du chêne, et il n'y a rien à faire malheureusement, c'est tout simplement, c'est un peu comme chez certains, les cheveux tombent, et bien notre chêne,
oui. Allez. Pas grand chose à faire, vous en savez quelque chose.
Et c'est pas très gentil.
Moi aussi, mais alors on se met dedans. Question de Anne, qui habite Nouméa, sur un bateau. Et sur son bateau, elle a du basilic, du persil, mais les feuilles deviennent jaunes. Est-ce dû à un problème d'arrosage?
Alors déjà, je ne connais pas vraiment le climat, s'il est parfait pour le persil et le basilic à Nouméa. J'en profite pour vous aussi embrasser tous ceux qui nous écoutent loin, parce que c'est vrai qu'on est
dans le Pacifique,
très très loin. Donc en termes de conseils pour le jardinage à Nouméa, je ne suis pas convaincu d'être qualifié sur un bateau, ça devient compliqué. Est-ce un bateau sur de l'eau douce ou sur de l'eau de mer?
Ah bah ça, on va lui envoyer la question,
oui, parce
on
que répondra si la semaine prochaine. Mer, c'est peut-être les embruns, tout simplement, qui sont négatifs pour le végétal, sachant que le sel est un désherbant puissant. Donc si c'est sur l'eau de mer, On oubliera la culture du persil et du basilic. Si on a affaire à une eau douce, par exemple, c'est peut-être tout simplement un problème de substrat. Lorsqu'il y a jaunissement du feuille, généralement, c'est que la plante ne trouve pas dans la terre de quoi se nourrir normalement. Il faut donc mettre du terreau, du bon vieux terreau, et la situation, je l'espère, devrait s'améliorer. Pour le persil, j'en profite pour rappeler que le persil se sème, mais ne se repique pas.
Et le persil jaune, c'est pas terrible sous la dent, sur les assiettes, ça n'a pas de goût, en fait.
Bah, c'est un peu flasque même. Ouais.
Annie, un jardin, tenez-vous bien, de 2000 mètres carrés. Eh bien, dans ce jardin, on poussait 3 cèdres centenaires, un magnifique séquoia, dit-elle, et un tilleul très ancien. Il a été prévu un arrosage intégré pour les plantations prévues autour de ces arbres. Qu'en pensez-vous, cher Alain ?
Je trouve extraordinaire l'idée de dépenser de l'argent pour faire mourir ces arbres. Alors j'explique. Vous avez des arbres qui vivent paisiblement, tranquillement, et un pépiniériste, un paysagiste, un professionnel de l'horticulture a envisagé l'installation d'un arrosage intégré. On le comprend, c'est son métier. Que se passe-t-il ? Déjà, sous les arbres, il y a des racines en grosse quantité. Vous aurez beau mettre ce que vous voulez comme eau, les arbres vont absorber l'eau mise à disposition. Deuxièmement, les plantes installées sous les arbres auront du mal à vivre de par l'ombrage prodigué par les grands arbres. Donc, on va transformer la structure du sol, on va mettre une humidité importante, en un mot, chaleur, humidité égale champignons, tout cela pour des vieux sujets qui auront du mal de par leur âge à résister. C'est une erreur. Et j'en profite pour rappeler, et donc on aura la preuve aujourd'hui que l'émission n'est pas sponsorisée par les installateurs d'arrosage automatique. Je rappelle que l'arrosage automatique est parfait en été, surtout quand on manque d'eau. Mais quand on manque d'eau, l'arrêté préfectoral vous interdit d'utiliser votre arrosage intégré.
Donc ça ne sert à rien.
Donc ça ne sert absolument à rien.
Et point sur le bec. Philippe, il a de très beaux ricins dans son jardin. Il récolte les graines à chaque fin de saison. Comment puis-je utiliser ces graines sans risque comme engrais éventuellement ?
Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas de risque. Le ricin est l'une des plantes les plus toxiques qui soit. Effectivement, on ne va pas tous manger du ricin. Mais par exemple, ce qu'on appelle le tourteau de ricin qui est obtenu à partir de l'huile de ricin et qui est utilisé comme engrais est extrêmement toxique et pour les animaux et pour les hommes. Donc attention au ricin dans un jardin. Si votre toutou s'amuse à sortir un paquet de tourteaux de ricin que l'on met parfois pour tuer les taupes, s'il le mange, votre toutou malheureusement ne passera pas Noël. Et Noël, c'est demain. Pour vous dire la brutalité. Voilà. Donc, on ne plaisante pas. Alors, quand on a une plante, on la produit pour sa beauté. Le ricin est une très jolie plante qui a des feuillots souvent rouges, sublimes. On peut l'enterrer, on peut mettre de l'engrais avec, mais qu'on évite de la réutiliser d'une manière un petit peu inconsidérée. Le ricin, le datura et d'autres plantes sont à utiliser avec précaution.
Avec parcimonie, question de Nolwenn à présent. Nolwenn a vu apparaître un cercle blanc qui s'est formé au pied de son baobab bonsaï. Pour quelle raison selon vous ?
Excès d'humidité. Le baobab est une plante qui a besoin d'une longue période de sécheresse. Je vous rappelle que dans son pays d'origine, il va manquer d'eau pendant plusieurs mois, justement parce que il a besoin de cette période d'abstinence en eau, et bien pour prospérer. Donc, on met de l'eau au bonsaï pour un baobab qui n'en a pas besoin en ce moment. Il faudra reprendre l'arrosage seulement dans quelques temps. Trop d'eau, donc il faut simplement la gratter, arrêter d'arroser, parce que le baobab est une plante qui est très complexe à cultiver. Le bonsaï en tant que tel est très complexe à cultiver. Alors le baobab bonsaï, c'est vraiment chercher à se compliquer l'existence.
Je regrette qu'il n'y ait pas une vidéo de vous, parce que vous avez un nez rouge de clown, et on saura pourquoi dans quelques instants.
Ça lui va bien,
ça lui va très bien. Oui, mais il me fait loucher.
Ça fait absolument, ça fait un peu loucher.
Ça fait un peu loucher, c'est un peu dommage.
Alain Baraton, Mariette vous demande quoi faire contre tavelure de néflier.
Un tavelure de néflier, c'est un champignon qui dort dans le jardin en automne et en hiver et qui se manifeste dès le printemps avec l'apparition des chaleurs et là encore de l'humidité qui sort de terre. Il n'y a pas grand chose à faire. Certains vont vous parler de la bouillie bordelaise. J'aime pas trop la recommander, même si elle est utilisée en culture bio. Il y a toujours les purins, comme le purin de prêle, qui sembleraient donner de bons résultats. Mais ce qu'il faut surtout lorsqu'on a un végétal qui est attaqué par ce genre de problème comme la tavelure, c'est vraiment jouer du sécateur, aérer le centre du végétal pour que le soleil puisse baigner l'intégralité de la ramure et caresser tendrement l'ensemble du feuillage.
Un conseil lecture pour terminer.
Et oui, une campagne pour les fleurs sauvages d'Elisabeth Trottignon, publiée chez Compagne et Compagnie. Un très beau, très joli livre où l'auteur Elisabeth Trottignon parle de sa passion, les fleurs sauvages. Tout est dit sur ces petites fleurs. C'est un livre extrêmement bien écrit, subtilement photographié. J'ai eu la chance et l'honneur de le préfacer. Je suis très heureux de cet ouvrage. Voilà une belle idée de cadeau.
Eh bien, vous pouvez encore vous précipiter pour acheter ce livre qui s'appelle
Une campagne pour les fleurs sauvages.
Merci Alain Baraton.